Par l'Église, ce soir, nous poursuivons notre étude du XVIIIe siècle, l'histoire de l'Église au XVIIIe siècle. Et je voudrais terminer rapidement, avant d'arriver à la Révolution française, l'histoire de la famille Rabault. Puis ensuite, nous reviendrons un petit peu en arrière, si vous le voulez, et nous intéresserons d'une manière un petit peu plus précise aux luthériens. Puisque maintenant, nous avons vu les réformés. Et ensuite, nous verrons un peu les luthériens avant d'aborder ce chapitre terrible, n'est-ce pas, de la période de la Révolution française. Donc, nous étions restés la dernière fois au moment où le roi Louis XVI convoquait les États généraux et donc où se déclenchait la Révolution avec la nomination de Rabault de Saint-Étienne qui représentait donc le fils de Paul Rabault qui représentait le tiers-État. C'est-à-dire une des composantes importantes des États généraux. Rabault représente certes le tiers-État, mais au-delà, évidemment, il représente aussi les 2 millions de protestants que compte à cette époque-là la France. Alors, déjà, ce chiffre-là nous amène à nous arrêter quelques instants. 2 millions de protestants sur une population française qui devait en compter dans les 30 millions, à cette époque-là, c'est considérable. C'est considérable si l'on considère notamment que nous sommes encore dans une période de quasi-persécution. Bon, ça n'est plus les dragonnades, hein, ça n'est plus la période de la guerre des Cévennes, mais le protestantisme, même si depuis 2 ans, n'est-ce pas, 1787, a obtenu donc du roi Louis XVI une reconnaissance, disons, non pas officielle encore, mais enfin quasi officielle, disons. Mais c'est une reconnaissance qui n'en est pas une, en fin de compte. Et même si c'était une reconnaissance à part entière, en 2 ans, n'est-ce pas, le protestantisme n'aurait pas pu se développer de cette manière-là. Donc, ici, nous pouvons considérer deux choses. La première chose, c'est que la résistance des Camisards n'a pas été vaine. Ils ont certes été vaincus militairement, mais finalement, spirituellement, ils sont vainqueurs, car quelques dizaines d'années après leur révolte, eh bien, il y a 2 millions de protestants en France, alors qu'au début du siècle, Louis XIV pouvait proclamer, avec un peu de présomption, que le protestantisme était éradiqué en France. Deuxième remarque, n'est-ce pas, 2 millions de protestants, quand on sait qu'à la fin de notre siècle, il y a à peine 1 million de protestants, et quand nous disons 1 million de protestants, nous comptons certainement très large, ça tourne plus vraisemblablement autour des 600 000 que du million, eh bien, ça aussi, ça nous laisse rêveurs. Et nous pouvons nous demander comment, dans un contexte de persécution, le protestantisme a pu se développer à ce point-là, et depuis finalement la Révolution française, il y a une lente érosion du protestantisme en France. Depuis la révocation de l'édit de Nantes jusqu'à la Révolution française, il y a une progression constante. Et puis, après la Révolution française, c'est-à-dire après, en fin de compte, la liberté, quand le protestantisme trouve l'égalité des droits et donc la possibilité de se développer librement, bien c'est l'inverse qui se produit. Bon, il y a à ça des causes diverses. Notamment l'affaiblissement de la foi qui suit la Révolution française, on aura l'occasion de voir ça, le rationalisme qui va commencer à naître, notamment au siècle dernier, et puis des facteurs démographiques et des choses semblables. Ici, il y a quand même une règle qui est assez intéressante de noter, c'est que finalement, l'état de persécution est un état davantage propice à la progression de l'Évangile qu'une période de paix, de liberté. Ça, c'est ce que disaient les pères de l'Église, le sang des martyrs est la semence de l'Église. Et ça, c'est quelque chose qui s'est vérifié pendant toute cette période-là. Et au moment où le protestantisme trouve l'égalité des droits, la liberté, eh bien, il perd son élan, il perd son dynamisme et il décline. Bon, quel est son avenir en France ? Sombre. Ça, Dieu seul sait, mais enfin, il est certain que les choses ne sont pas réjouissantes particulièrement. Revenons à Rabault de Saint-Étienne. Rabeau de Saint-Étienne va militer, bien sûr, tout de suite en faveur des protestants. Certes, l'édit de 1787 n'est pas négligeable. Il a été arraché, comme on l'a vu, après un combat aussi important d'un certain nombre de protestants. Mais il est considéré comme insuffisant, d'une part, parce que la liberté de culte n'est pas véritablement reconnue. Et deuxièmement, les protestants n'ont pas l'égalité des droits, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore des citoyens à part entière. Or, nous sommes ici à la période justement des idées, que j'ai quelques occasions de revenir, les idées dites des Lumières, n'est-ce pas, qui vont donner naissance à l'idée de liberté d'une part, liberté dont manifestement les protestants sont privés. Et dans cette lutte pour la liberté, dont la Révolution française va être l'apogée, on ne peut pas dire que les protestants aient été ceux qui aient pris en quelque sorte la tête de la croisade pour la liberté. C'est plus les philosophes des Lumières qui le font, mais les philosophes le font parce que depuis déjà des siècles, eh bien, les protestants luttent pour la liberté. Et la liberté, la liberté pour laquelle la Révolution française combat, c'est quelle liberté? Qui est finalement privé de liberté en France, dans la France de l'Ancien Régime? Bon, il y a des libertés qui sont à conquérir, c'est certain. Il est bien évident que le tiers-État est privé d'un certain nombre de libertés, mais pas de la liberté avec un grand L. Les seuls qui soient privés de cette liberté sont les protestants et les juifs. Parce que les juifs sont à la même enseigne que les protestants dans ce domaine-là. Et finalement, la revendication de la liberté va se faire dans le sens, finalement, du combat des protestants depuis des siècles. Et il n'est donc pas étonnant, je dirais que ce serait l'inverse qui le serait, de trouver les protestants engagés dans ce combat pour la liberté, la Révolution française. Et le représentant principal, on dirait aujourd'hui le leader de la France protestante, Rabeau de Saint-Étienne, qui va être donc représentant du tiers-État, c'est-à-dire l'avocat, non seulement des libertés pour le tiers-État, mais également de la liberté pour les protestants et pour les juifs. En mai 1790, au moment où la Révolution donc dérape véritablement, et le roi accepte de transformer la monarchie absolue en monarchie constituante, donc de doter la France d'une constitution, donc et créer une assemblée qui va avoir pour charge d'élaborer cette constitution, et qui prend pour cette raison le nom d'assemblée constituante, dont le président n'est rien d'autre que Rabeau de Saint-Étienne lui-même. Et voilà ce représentant d'un parti abhorré, n'est-ce pas, qui est président de, finalement, la plus illustre institution française de cette période-là, la Constituante. On peut dire qu'il est le premier personnage de la Révolution à cette période-là. La Constituante cède le pas, après 2 ans, n'est-ce pas, à la Convention. Et là, évidemment, commence la période noire de la Révolution française, la Terreur. Rabeau de Saint-Étienne n'est plus le président de la Convention, pour une raison très simple, c'est qu'en tant que protestant, Rabeau de Saint-Étienne est contre toutes les formes de tyrannie. Et la Convention voit le triomphe des partis les plus extrémistes et les plus radicaux dans l'échiquier politique français, notamment les deux partis qui vont s'en déchirer, s'en disputer la direction, la Montagne et les Girondins. Finalement, les Montagnards vont éliminer les Girondins, comme on le sait, et être les seuls à diriger finalement la Révolution française jusqu'à la chute de Robespierre en Thermidor, au mois de Thermidor, puisque maintenant on a changé le calendrier. C'est très intéressant de voir, n'est-ce pas, que la Révolution française a cherché à accomplir ce que Daniel avait dit que l'Antichrist ferait, changer le calendrier et les lois. Hein? Les lois de Dieu, bien sûr. Là, on va arriver à un état qui sera pour le moins agnostique, sinon athée, n'est-ce pas ? Le culte culte chrétien va être éliminé, interdit en France, non seulement protestants, mais également catholiques. Les prêtres vont être invités dans un premier temps, n'est-ce pas ? Il va y avoir une religion chrétienne croupionne qui va être inféodée à l'État et qui n'aura de droit d'exister que dans la mesure où elle se soumet à l'État. L'État étant au-dessus, n'est-ce pas, des religions, au-dessus des lois de Dieu, c'est l'État qui dirige. Et prêtres et pasteurs sont invités à prêter serment de fidélité à l'État, donc à la Révolution. Ce faisant, ils se désolidarisent, notamment pour les prêtres catholiques, du pape. Alors évidemment, pour les prêtres catholiques, c'est un dilemme terrible, n'est-ce pas ? Car prêter serment, eh bien, c'est rompre officiellement avec l'Église catholique, puisque ce n'est plus le Vatican qui est le chef de l'Église française, mais c'est la Convention, c'est l'État qui dirige l'Église. Donc, et d'ailleurs, le pape a annoncé que tout prêtre qui prêterait serment à la Révolution serait excommunié. Et un certain nombre de prêtres, donc, deviennent des prêtres assermentés et peuvent continuer dans une certaine mesure, dans une mesure qui se restreint de plus en plus, d'ailleurs, à célébrer leur culte. Et puis, ceux qui refusent de prêter serment sont considérés comme des prêtres réfractaires et sont impitoyablement poursuivis. Ils sont obligés de se cacher, ceux qui sont pris sont impitoyablement guillotinés, n'est-ce pas ? Et l'Église catholique va être persécutée jusqu'à ce qu'on arrive finalement à la suppression, pure et simple, n'est-ce pas ? De tous les cultes chrétiens en France. Catholiques et protestants, compris juifs, etc. Et tout ceci est remplacé par un culte nouveau, le culte de la déesse raison, d'abord de l'être suprême, parce que Robespierre est un déiste, hein, quelqu'un qui croit en l'être suprême. Alors il institue partout le culte de l'être suprême. Et puis ensuite la raison, puisque nous sommes ici en pleine floraison du rationalisme. Alors, à côté de l'être suprême, il y a une déesse que l'on appelle la déesse raison. Et lorsque le culte de la déesse raison est instauré en grande pompe, n'est-ce pas, il y a une espèce de mascarade bouffonne et grotesque, n'est-ce pas, ou une espèce d'actrice d'un théâtre quelconque, une espèce de prostituée de haut vol, n'est-ce pas, est transportée en grande pompe, elle est déguisée en Marianne, n'est-ce pas, elle est transportée en grande pompe par une procession qui ressemble aux processions catholiques jusque dans Notre-Dame, qui devient le temple de la déesse raison. Enfin, vous voyez le style, quoi. Bon, alors évidemment, ça aliène à la Révolution française tous les éléments catholiques en France, et notamment tout l'ouest de la France. L'ouest, c'est-à-dire la Bretagne et la Vendée. Et commence alors cette impitoyable guerre de Vendée, dite de Vendée, n'est-ce pas, au cours de laquelle les forces révolutionnaires vont se livrer à un véritable génocide. Hein. Il y a cette très belle expression qu'emploient les révolutionnaires, la régénération guillotinière. Il faut régénérer le sang français, n'est-ce pas, en supprimant ce qui est le sang impur. C'est très intéressant, n'est-ce pas, de voir qu'il y a là une véritable, comment dirais-je, un véritable racisme qui est le précurseur du nazisme. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois qu'il y a l'idée que certains peuvent avoir un sang impur. D'ailleurs, c'est dans l'hymne national français, et je m'étonne que jusqu'à aujourd'hui, on ait gardé, n'est-ce pas, cet horrible chant raciste, hein, dans la Marseillaise, qu'un sang impur abreuve nos sions. Mais ce n'était pas simplement un écart de langage de Rouget de Lille, c'était quelque chose que les révolutionnaires pensaient profondément. Il y a en France des gens qui ont un sang impur. Leur sang souille la pureté de la race française. Ce sont les aristocrates qui ont du sang bleu. Ce sont les prêtres. Ce sont tous les anti-révolutionnaires. Donc ce sont des gens à éliminer par la force. Les populations de l'Ouest qui n'entrent pas dans la vision révolutionnaire sont aussi des gens qui sont qualifiés de sang impur, alors il faut les éliminer. Et les troupes républicaines qui écument l'Ouest se livrent un véritable génocide. Il y aura au moins 1 million de personnes qui sont éliminées grâce à cette régénération guillotinière, et pas seulement guillotinière d'ailleurs, parce qu'on emploie d'autres moyens un petit peu plus radicaux et un petit peu plus rapides que la guillotine. Par exemple, à Nantes, on embarque un certain nombre de gens à éliminer sur des bateaux, sur une espèce de ponton à bout de souffle, on les installe au milieu de la Loire, et là, on les coule. On les coule avec leur cargaison humaine, et là, il y a des centaines de noyés en l'espace de quelques heures. En Vendée, quand un village résiste, on passe tout le monde au fil de l'épée, on fusille, on sabre, on massacre, et puis les plus belles prises, on les garde pour la guillotine. Ça fait un petit peu mieux, ça impressionne un petit peu la population, mais le vulgus pecus, on le massacre. Alors, sans distinction d'âge, de sexe, de rang, tout le monde y passe, sans aucune pitié. Bon, alors évidemment, il y a une résistance désespérée des populations de l'Ouest, mais finalement, ce sera la défaite, des armées blanches, après une guerre terrible d'ailleurs, une résistance terrible, qui fera que jusque pratiquement à la moitié de ce siècle, les populations de l'Ouest resteront suspectes aux yeux de la République, qui verra en elles des dangereux agitateurs potentiels. D'ailleurs, les populations de l'Ouest n'oublieront pas les exactions dont elles ont été les victimes et garderont vis-à-vis de la République une certaine méfiance que la République leur rendra bien, n'est-ce pas ? Ça se traduira par le fait que pendant la Première Guerre mondiale, on mettra les populations de l'Ouest, par exemple, en première ligne pour les faire se tuer, les faire être tués par les Allemands. C'est encore une autre manière d'éliminer le sang impur. C'est pas des choses qu'on dit quand on parle de la Révolution française, et pourtant, c'est un fait. Alors, au moment où cette évolution apparaît, au moment où la Convention, les premiers excès de la Convention, bien entendu, la Convention n'a pas réélu à sa tête Rabaut de Saint-Étienne, qui était considéré comme trop modéré. Par contre, Rabaut est membre de la Convention, comme l'est d'ailleurs son frère, Jacques-Antoine, qui est élu lui aussi député de la Convention. Le troisième frère, s'appelle Robert, lui s'est tenu à l'écart bien sagement, il a eu fort raison, des avatars de la politique, et il est pasteur à Nîmes. Bon, et c'est alors que la Convention va voter l'égalité des droits. Va voter l'égalité des droits en faveur des protestants et des juifs. Il y a eu des discussions très profondes, savoir si on allait accorder ou non cette égalité des droits. Tout le monde n'était pas d'accord parmi les conventionnels. Et il faudra l'intervention du député Clermont-Tonnerre, n'est-ce pas, pour emporter la décision. Et là, ce qui apparaît alors, si vous voulez, c'est cette pensée, c'est cette idée qui est la pensée des Lumières, à savoir que on est prêt à accorder l'égalité des droits, c'est-à-dire que la religion, dans la nouvelle société qui naît alors, devient une affaire privée. Une affaire privée qui ne concerne plus l'État. C'est, si vous voulez, le début de la laïcité. Alors, ça a deux gros avantages. Ça a un avantage, si vous voulez, sur le fait que, comme le dira la loi 1905 en France, qui est directement inspirée, si vous voulez, de la décision de la Convention, la République française ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. Alors, la République est dégagée de tout ce domaine-là, mais elle ne peut pas se désintéresser pour autant de la religion. Et dans le cadre d'une affaire privée, donc qui dépend de la liberté de chacun, Eh bien, la liberté est reconnue, et c'est un des articles qui est inséré dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est justement l'émanation aussi de la Révolution de 89. Nul ne peut être inquiété, dit cet article, pour ses opinions, même religieuses, dans la mesure, et c'est la restriction, où leur manifestation publique ne trouble pas l'ordre public. C'est-à-dire qu'il y a non seulement la reconnaissance d'un droit de liberté de conscience qui avait été si longtemps réclamé par les protestants, mais en même temps est reconnue la liberté, n'est-ce pas, de manifester publiquement sa foi. Donc c'est une affaire privée et c'est en même temps une affaire publique. Ça veut dire manifester publiquement sa foi. Cela implique le droit de rassemblement, de réunion, éventuellement, pour les catholiques, de procession, de sonnerie de cloche, enfin ça donnait lieu à des discussions parfois, n'est-ce pas, etc. Dans la mesure, et c'est là justement que l'autorité publique intervient, où ces manifestations se font dans le cadre de la loi et ne troublent pas l'ordre public. Alors, c'est tout le problème de savoir. Est-ce qu'une sonnerie de cloche trouble l'ordre public? Certains le pensent. Certains qui sont réveillés par les cloches trouvent que ça trouble leur sommeil. Bon, etc. Le problème des processions, est-ce que ça n'empêche pas la liberté de circulation sur les routes, etc. Bon, voyez, là, on entre dans des problèmes qui ne sont pas toujours simples à résoudre. Et finalement, la coexistence entre l'Église et l'État, sous la base justement de la laïcité, n'est pas quelque chose qui va de soi. Et là donc, il y a déjà des germes du conflit qui va naître justement au moment où apparaîtra cette histoire des prêtres réfractaires, car si précisément la manifestation de la foi sur manière publique est quelque chose qui est reconnu, dans quelle mesure est-ce que le fait, par exemple, d'être soumis à un pouvoir étranger, dans l'occurrence le Vatican, parce que l'Église catholique, n'est pas quelque chose qui contredit à la nécessité qu'a tout citoyen français d'être soumis au droit de la République. Bon, voilà un problème qu'on ne peut pas écarter non plus d'un revers de main. Alors, le conflit va durer jusqu'au concordat qui sera signé entre le pape et Napoléon. Bon, alors ça c'est un problème. Autre point, n'est-ce pas, qui est aussi considéré comme une liberté, c'est que chacun a la liberté de propager sa croyance. Je fais de la propagande en faveur de sa croyance. Ça c'est une des lois fondamentales reconnues aussi par la Déclaration des droits de l'homme et par la Convention, donc dans le moment où va être voté ce statut des Églises. Autre problème qui se pose alors, c'est le problème des Juifs. Et Clermont-Tonnerre a cette formule qui est tout à fait intéressante. Bon, les Juifs, ça passe beaucoup plus difficilement que pour les protestants. Les protestants, finalement, bon, à part quelques catholiques irréductibles, dont des prêtres, qui vont s'opposer avec vigueur, n'est-ce pas, au statut des protestants. Mais, bon, l'Assemblée est quand même acquise en majorité à l'égalité des droits des protestants. D'ailleurs, le fait qu'ils aient élu à la Constituante un protestant à leur tête, en l'occurrence Étienne Rabaud de Saint-Étienne, montre que, bon, c'est presque une formalité. La reconnaissance des droits des protestants. Pour les juifs, c'est autre chose. Les juifs sont encore, d'ailleurs, ils ne sont pas très nombreux en France à cette période-là. Ils sont concentrés essentiellement dans deux régions, bien sûr, à Paris, mais en dehors de Paris, dans l'Est, la région de l'Alsace-Lorraine, et puis dans le Sud-Ouest, la région de Bordeaux-Bayonne essentiellement. Et les Juifs sont considérés encore, n'est-ce pas, par la majorité des Français comme des gens des sous-hommes. Quelques années auparavant, on avait proposé un prix, n'est-ce pas, à qui ferait des propositions pour la régénération de la race juive que tout le monde considérait comme une race complètement dégénérée. Et ce prix avait été gagné par l'abbé Grégoire, qui avait proposer d'ailleurs justement quelque chose qui n'était autre que l'émancipation des Juifs. Et Clermont-Tonnerre reprend les idées de l'abbé Grégoire, à savoir cette formule qu'il avait à l'emporte-pièce et qui dit beaucoup de choses. Et la République française doit être prête à reconnaître tous les droits, absolument tous les droits, aux Juifs en tant qu'individus, mais rien en tant que peuple. Rien, absolument rien en tant que peuple. Et pour l'abbé Grégoire et pour Clermont-Tonnerre, il ne devait plus y avoir de Juifs en France. D'ailleurs, c'est la formule que reprendra Napoléon. Mais uniquement des citoyens français de confession israélite. Voyez-vous, c'est la privatisation totale de la religion. Si vous voulez, c'est la promotion de l'individualisme. La religion est véritablement une affaire privée. Et à partir de là, on peut constituer des églises, des communautés, des congrégations, des choses comme ça. Mais l'individu est premier sur la congrégation. Alors que jusqu'alors, c'était l'inverse. C'était quelque chose qui était hérité du Moyen-Âge. L'idée des corporations, les choses semblables. Il y avait des entités à l'intérieur de l'État qui étaient appréhendées par l'État en tant que tel. Bon, l'Église était, par exemple, une de ces entités. Le protestantisme, selon les dits de Nantes, si le dit de Nantes avait été respecté, aurait été aussi une entité du même ordre. Bon, le judaïsme, automatiquement, l'était. Israël était un peuple. Les Juifs étaient un peuple. Et là, la Révolution française dit, à partir de maintenant, les Juifs ne seront plus un peuple. Ils seront des Français avec une religion. Une religion reconnue. Et ça introduit une grande ambiguïté. Pour les Juifs d'abord. Parce que c'est nier un des éléments essentiels de la foi juive, c'est-à-dire le caractère ethnique, le caractère de peuple d'Israël. Et par exemple, aujourd'hui, les Palestiniens clament ça. Ils disent Israël n'est pas un peuple, donc il n'a pas le droit à un État. Qu'est-ce que c'est les Juifs? Ce sont des citoyens des différents États d'où ils sont venus, de Russie, de Pologne, de France, d'Amérique, des pays arabes qu'ils ont quittés, d'Algérie, du Maroc, etc., de confession israélite. Donc, ils n'ont pas le droit de revendiquer un État, pas plus que les protestants n'auraient le droit de revendiquer un État protestant, pas plus que les bouddhistes auraient le droit de revendiquer un État bouddhiste. Alors, c'est amusant, parce que dans le même temps, ils ont des États musulmans, mais enfin, ils ne sont pas une contradiction près. Mais voyez-vous, c'est la Révolution française qui a préparé le terrain à ça. Alors, la Révolution française et la laïcité n'ont pas eu que des avantages. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, nous sommes en train aussi de cueillir les résultats de cette vision, n'est-ce pas, que l'État ne considère plus qu'il y ait des entités, mais considère qu'il y ait des individus qui ont des options religieuses qui sont celles de leur libre choix. Que l'État reconnaît, que l'État réglemente, mais qu'il ne reconnaît pas. Alors, on va voir si on va rester dans ce régime de laïcité avec l'islam. Maintenant, ça, c'est un autre problème, parce que l'islam, lui, n'accepte pas la laïcité à la française. Enfin, c'est là que ça naît. Bon, Rabaut de Saint-Étienne va méditer pour ça. Lui, il y voit essentiellement les avantages. Et c'est vrai que dans l'immédiat, il y a des avantages. Pour l'Église aussi, c'est un énorme avantage, parce que l'Église n'est plus soumise à l'État. L'Église connaît la liberté, et l'Église est dans la situation que la Bible décrit par rapport à l'État. L'Église n'a pas à être une institution de l'État. Jamais elle n'aurait dû l'être. C'est la fin du constantinisme, d'une certaine manière. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle l'Église catholique ne peut absolument pas accepter ça. Le protestantisme accepte. Au contraire, ça va dans son ecclésiologie. Mais le catholicisme dit non, ça c'est inacceptable. Et ça va être l'occasion du conflit avec la République française. Conflit qui ne s'apaisera qu'au début de ce siècle. Et là, n'est-ce pas, nous voyons naître une nouvelle forme de relation entre l'Église et l'État. qui a ses avantages, mais comme je disais tout à l'heure, qui a aussi ses inconvénients, comme d'ailleurs toute chose dans ce bas monde, hélas. La Convention continue à se radicaliser. Les fameux excès de la rivalité entre montagnards et girondins se développent. Les montagnards éliminent les girondins. Et Rabaut de Saint-Étienne a le malheur de protester publiquement contre la tyrannie de la Convention. Il estime que les idéaux de la Révolution sont trahis. Il a raison, bien sûr. Il aurait mieux fait de se taire, bien sûr. Parce que c'est une époque où on ne rigole pas avec ces choses-là. Il est l'objet d'un mandat d'arrêt. Il est traduit devant le tribunal révolutionnaire. Et quand on est traduit devant le tribunal révolutionnaire à cette période-là, il n'y a qu'une seule peine, la mort. La mort. Et on est à peu près certain, quand on est traduit devant le tribunal révolutionnaire, qu'on n'en sortira pas vivant. C'est tellement vrai que ça se fait par fournée. Il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas d'appel possible. Toutes les garanties juridiques sont ôtées. On a 2 minutes pour se défendre. Et encore, n'est-ce pas, c'est une pure formalité parce que être traduit devant le tribunal révolutionnaire, c'est être condamné. C'est synonyme. Ou alors, il faudrait vraiment à quelque chose d'extraordinaire pour qu'on ne soit pas condamné. Je ne sais pas s'il y a des exemples de gens qui n'ont pas été condamnés après avoir été traduits devant le tribunal révolutionnaire. Même si vous êtes innocent, vous êtes condamné. Alors, la charrette attend à la sortie du tribunal révolutionnaire. Et puis, ceux qui sont condamnés vont dans la charrette, ils sont guillotinés sur le champ. Sur le champ. Sauf quand les prisons sont trop pleines, que le bourreau est un peu fatigué. Alors, on vous enfourne dans les prisons, n'est-ce pas? Et puis là, vous pouvez attendre votre tour, vous pouvez attendre un certain temps. Ça peut durer des mois, parce que ça se fait au hasard, d'ailleurs. Hein, il y a la pile des dossiers. Alors, tous les matins, n'est-ce pas? Le bourreau, il prend les dossiers qui sont au-dessus. Alors, en général, c'est ceux qui viennent d'être condamnés qui passent les premiers. Ceux qui ont été condamnés depuis un peu plus longtemps, ils sont en bas de la liste. Alors, ils durent un peu plus longtemps, en général. D'ailleurs, certains pourront échapper au plus près de la guillotine grâce à ça, parce que quand ils passeront Thermidor, bon, bah, ils seront ensuite graciés. Mais voilà comment ça se passe. Alors donc, Rabaut est arrêté. Il est traduit devant le tribunal révolutionnaire avec son frère, hein, avec son frère Antoine, et les deux frères sont condamnés à mort. Alors, évidemment, la femme de Rabaut de Saint-Étienne, qui s'appelle Elisabeth, avertit le père qui est à Nîmes, Paul Rabaut, qui est âgé à cette époque-là, et qui habitait chez eux d'ailleurs, qui habitait chez Paul pendant un certain temps. Et lorsque on vient annoncer au père, n'est-ce pas, que le mari est arrêté, qu'il est condamné à mort, Elisabeth devient folle, hein, et elle se suicide après avoir blasphémé, etc. Mais bien entendu, Paul Rabaut, lui, reste constant. Et bon, Rabaut de Saint-Étienne a essayé de se cacher avant d'être arrêté. Il a été trahi, il a été dénoncé, et puis il est donc exécuté. Pierre Rabaut, qui est le pasteur de Nîmes, est arrêté, lui aussi, pour le seul crime d'être le frère de Rabaut de Saint-Étienne. Ça suffit à cette époque révolutionnaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Ben rien. Mais il est le frère d'un condamné. Alors ça suffit pour l'emmener à la guillotine, lui aussi. Hein, il est arrêté le 25 juillet, le 1794, avec Paul Rabaut, le père aussi, est arrêté pour la même raison, parce qu'il est le père de Saint-Étienne. Et heureusement pour les deux, n'est-ce pas, intervient là la chute de Robespierre, le 29 juillet 1794. Robespierre est guillotiné à son tour. Après avoir guillotiné des milliers de personnes, eh bien, il connaît le sort qu'il a infligé à d'autres. Et c'est la fin de la terreur. Et tous ceux donc, qui ont été condamnés à mort, qui n'ont pas encore été exécutés, qui ont eu la chance de ne pas encore exécuter, eh bien, se retrouvent graciés par la mort de Robespierre. parmi eux donc les Rabaud père et fils. Malheureusement, Paul Rabaud, le vieux Paul Rabaud, qui est déjà malade quand il est arrêté, le séjour en prison ne l'arrange pas et il va mourir à sa sortie de prison des suites de son incarcération. Et donc, ainsi se termine, si vous voulez, l'histoire des Rabaud. Bon, on aura l'occasion de revenir sur la Révolution elle-même. Je voudrais revenir un peu en arrière maintenant et puis parler des luthériens. Bon, les luthériens, évidemment, sont beaucoup moins nombreux en France que les réformés, puisque l'Église luthérienne est essentiellement une Église germanique ou de pays qui ont été évangélisés à partir de l'Allemagne, c'est-à-dire les pays scandinaves, la Bohême ou des pays de l'Europe centrale. La France, évidemment, qui est le pays de Calvin, est essentiellement calviniste, donc réformée. En fin de compte, on va avoir une petite implantation luthérienne à Paris dans des conditions assez particulières qui sont, si vous voulez, le fait que, après la révocation des édits de Nantes, il y a une interdiction qui est faite, bien sûr, de toute pratique du protestantisme en France. Bon, ça, on l'a vu. Mais les autorités françaises ne peuvent pas empêcher des ambassades étrangères, et en particulier des ambassades de pays protestants, d'avoir leur chapelle privée. Ils ne peuvent pas empêcher, bien entendu, à l'ambassadeur d'Allemagne, à l'ambassadeur des pays scandinaves, Suède et Danemark en particulier, de pratiquer leur culte. S'ils le faisaient, eh bien, ça équivaudrait à la rupture des relations diplomatiques avec ces pays-là. Donc, malgré l'édit de Nantes, il y a une tolérance d'un certain nombre de chapelles privées qui tournent autour des ambassades protestantes, des pays protestants représentés en France. Et ces pays-là sont essentiellement deux, au nombre de deux, la Suède et le Danemark. Et pendant toute la période de la révocation des édits de Nantes, puis pendant toute la période de la Révolution française, au moment où tout culte est interdit en France, eh bien, vont continuer à fonctionner dans les ambassades de Suède et du Danemark des cultes qui seront obligatoirement des cultes luthériens. Bien évidemment, ces cultes luthériens sont réservés exclusivement au personnel de l'ambassade et interdits aux citoyens français. Bon, dans la réalité, ça va être beaucoup plus complexe, pour deux raisons. La première, c'est que avec le temps, il va y avoir des citoyens allemands, suédois, danois, etc., qui vont venir s'installer en France pour y travailler, des travailleurs étrangers, c'est-à-dire des gens qui vont avoir des professions très spécialisées dans certains domaines. On est obligé de faire appel à eux en France parce qu'on n'a pas des gens qui ont les mêmes capacités et qui vont avoir donc des passeports de leur pays d'origine tout en résidant en France, à Paris essentiellement. Alors, les ambassades des pays de ces ressortissants-là, y compris d'ailleurs des ressortissants d'Allemagne qui ne sont pourtant pas représentés dans ces chapelles, vont recevoir le droit, pas officiel, mais tacitement, en tant que ressortissants étrangers, de pratiquer leur foi dans un pays où tout autre culte que le culte catholique est officiellement interdit. Et c'est ainsi que les églises des ambassades, l'église luthérienne, des ambassades de Suède et de Danemark vont commencer à rayonner en dehors, si vous voulez, de l'enceinte de l'ambassade. Et ces gens-là, donc, vont se retrouver pour des cultes dans la chapelle, puis alors pour d'autres activités que nous allons définir justement. Et puis petit à petit, évidemment, quelques Français vont parvenir à se glisser, en fraude, bien sûr, souvent au risque de leur vie ou de leur liberté, dans ces cultes en sorte qu'en plein Paris, alors que Paris est l'endroit où même l'édit de Nantes interdisait la pratique du culte protestant, en plein Paris, pendant toute cette période de la révocation d'édit de Nantes, vont être célébrés dimanche après dimanche, pratiquement sans interruption, des cultes protestants, deux cultes protestants. C'est le 7 décembre 1628 est donnée l'autorisation d'ouvrir une chapelle à l'ambassade du Danemark. Cette autorisation, n'est-ce pas, qui contredit l'esprit et la lettre de l'édit de Nantes, est donnée par Louis XIII au prince et ambassadeur luthérien de la capitale sous le sceau du secret le plus absolu. Et en 1635, l'ambassadeur de Suède, qui se nomme Hugo Grotius, arrive à Paris. C'est un savant qui est connu dans toute l'Europe et qui est un chrétien convaincu, un arminien d'ailleurs, c'est-à-dire quelqu'un qui ne croit pas à la prédestination, et qui installe un pasteur hollandais dans son ambassade, qui l'ouvre à des étudiants étrangers, qui ont la possibilité donc de participer dimanche après dimanche au culte qui, en principe, ne devrait le concerner lui et que lui seul. Alors, il y a deux cultes, ça vous montre que déjà l'ambassadeur Grotius avait des arrière-pensées et qu'il avait bien l'intention d'ouvrir son culte aux Français. Il y a deux cultes chaque dimanche, un culte le matin en suédois, donc réservé essentiellement au personnel de l'ambassade, et puis le soir, il y a un culte en français. Pourquoi un culte en français ? Alors que, en principe, un culte en suédois suffirait si la lettre de l'accord était reconnue, eh bien parce que précisément Grotius entend ouvrir ce culte aux Français. Le pasteur est rémunéré par l'ambassade, chichement d'ailleurs, et il faudra souvent l'intervention d'ailleurs de Christine de Suède, la reine Christine de Suède, qui est une des, ce qu'on appelle les despotes éclairés. Elle fait partie de ces rois, n'est-ce pas, et ces princes d'Europe qui sont touchés par les idées des Lumières, des philosophes, notamment Voltaire, Diderot et autres, surtout Voltaire. Christine de Suède elle-même a entretenu une correspondance avec Voltaire. Et ce sont des gens qui sont ouverts aux idées de liberté, de tolérance, et qui s'efforcent d'introduire volontairement, sans révolution, ces réformes-là, des réformes en faveur de la tolérance et de la liberté dans leurs pays respectifs. Alors Christine de Suède, pardon, est une des principales princesses d'Europe à avoir cette vision-là. La deuxième étant Catherine de Russie, mais enfin Catherine de Russie, tout ça c'est un peu pour la frime parce que les méthodes fortes, elle ne dédaignait pas d'y avoir recours. Hein. Tandis que Christine de Suède était une personne qui était quand même beaucoup plus ouverte que ne l'était Catherine de Russie. Bon, Frédéric de Prusse aussi se donnait pour un despote éclairé. Bon, lui l'était aussi dans une certaine mesure. Il y aura aussi ensuite un culte en allemand qui sera introduit. Pourquoi ? Pour justement les ressortissants allemands qui sont dans la capitale. Malheureusement, les édits royaux interdisent toute manifestation protestante en dehors du territoire de l'ambassade. Et alors se pose un problème, c'est le problème des inhumations en particulier. Quand un protestant meurt, eh bien logiquement, on ne peut pas l'enterrer. Le pasteur, parce qu'on ne peut pas enterrer évidemment le protestant en question dans les locaux de l'ambassade, pour des raisons évidentes. Que faire des morts ? Et finalement, l'ambassade de Suède, Christine de Suède elle-même d'ailleurs, est obligée d'intervenir auprès du roi et elle obtient, n'est-ce pas, la concession d'un cimetière protestant à Paris, en dehors de Paris. Alors c'est une chose assez extraordinaire de considérer qu'il y a un cimetière protestant aux environs de Paris qui se trouve rue des Saints-Pères où on brave l'interdiction du roi de faire des manifestations publiques. Tout enterrement, évidemment, est une manifestation publique et une occasion magnifique de faire l'évangélisation pour tous ceux qui participent à cet enterrement. Par la même occasion, on profite des enterrements, c'est assez cocasse, pour pratiquer secrètement, à l'occasion d'un enterrement, des baptêmes et des mariages. Alors, vous allez me dire que ça fait pas toujours très bon ménage. Se marier dans un cimetière à l'occasion d'un enterrement, c'est peut-être un peu original. Mais enfin, vu la dureté des temps, bien, c'est ce qu'on est obligé de faire à cette époque-là. Bon, l'ambassade de Suède va aussi avoir une action très, très, très positive à l'égard des prisonniers, des familles des prisonniers, par exemple, des galériens ou des gens comme ça. Et par l'intermédiaire de la Suède, transitent des subsides pour les familles des prisonniers qui sont distribués par le pasteur lui-même, en contravention, bien entendu, des lois royales. Bon, finalement, au bout d'un certain temps, le manège est découvert par les pouvoirs publics et le cimetière protestant est fermé. Alors là, on se trouve devant un problème. Finalement, on est obligé de pratiquer soit des enterrements clandestins, comme ça se fait d'ailleurs partout dans le reste de la France protestante à cette période-là, soit à enterrer dans les jardins. Bon, alors pendant un temps, ça va bien, aussi longtemps que le nombre des immigrés est quand même assez bas. Mais à partir de la fin du siècle, nous avons un véritable flot d'immigrés allemands qui arrivent en France, qui sont donc de religion luthérienne, tellement que là se repose le problème justement du cimetière protestant. Bon, au début du XVIIIe siècle, en 1711. Le pasteur hollandais donc quitte son poste et un nouveau pasteur, on cherche un nouveau pasteur pour le remplacer. Et c'est l'époque donc où arrivent beaucoup d'immigrants allemands qui sont des artisans spécialisés. Parce que Paris, évidemment, à cette époque-là, c'est la capitale européenne du luxe. Et la soif du luxe des grands est absolument insatiable. Et on a besoin d'un nombre très important de gens, d'artisans qui sont capables de fabriquer des objets de luxe. On a aussi besoin d'un personnel domestique très important. Par exemple, c'est la grande mode des poupées mécaniques, hein, des automates, des choses comme ça. Et les Allemands sont absolument champions dans ce domaine-là. Des voitures de luxe, des carrosses de luxe, n'est-ce pas, qui sont très sophistiquées à cette période-là, et ce sont souvent des artisans allemands qui les fabriquent. Aussi, il y a un engouement à cette époque-là pour la musique baroque allemande en France. Et on fait venir, n'est-ce pas, des musiciens, et beaucoup de musiciens viennent s'installer en France, et dont certains vont d'ailleurs être des musiciens jusqu'à dans la cour du roi. C'est très intéressant de noter, n'est-ce pas, qu'il va y avoir des protestants qui vont jouer dans les orchestres du roi et puis ensuite venir assister dimanche après dimanche au culte dans la chapelle de l'ambassade de Suède. Au bout d'un certain temps, ces gens-là, il arrive par exemple qu'ils se marient avec des Françaises. Et là, se pose un problème, puis ils ont des enfants, évidemment. C'est le problème. Alors, à ce moment-là, que se passe-t-il? Est-ce que le mariage, comment se pratique-t-il? Catholique, protestant? Bon, certains se convertissent au catholicisme, il y en a un certain nombre, mais la plupart restent fidèles à leur foi, et c'est souvent le conjoint catholique, n'est-ce pas, qui se convertit. Alors, ce qui se passe souvent, c'est quand il se marie avec des Françaises, c'est que, sans se convertir, ils cherchent à se faire naturaliser. Mais à partir du moment où ils sont naturalisés, ils ont un passeport français, ils sont citoyens français. Donc, ils n'ont plus le droit d'être protestants, d'après la loi française. Et c'est une arme à double tranchant, n'est-ce pas? S'ils se font naturaliser après mariage, eh bien, ils perdent le droit d'être protestants. Et là, ils vont être obligés d'aller en cachette au prêche. Alors, ils y vont avec leurs femmes et leurs enfants. Et c'est ainsi que la communauté luthérienne s'étoffe petit à petit. D'ailleurs, c'est la base de la communauté luthérienne qui existe encore aujourd'hui à Paris. En 1745, arrive donc un nouveau pasteur, qui est le pasteur Baer, qui est un théologien cultivé, originaire de Strasbourg, et qui lui aussi est très ouvert à l'idée de tolérance. Par exemple, à cette époque-là, l'Église catholique est extrêmement ferme par rapport aux gens du spectacle, les acteurs et actrices de théâtre qui ont souvent une vie débauchée, ou les écrivains de théâtre, de pièces de théâtre comme Molière, Racine et autres, n'est-ce pas, sont excommuniés ipso facto par le simple fait qu'ils font du théâtre. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas mariés à l'Église, ils ne reçoivent pas la communion et surtout ils ne sont pas enterrés. Ils ne sont pas enterrés en terre chrétienne, comme on dit à cette époque-là. Et le pasteur Baer, lui, va accueillir les gens du spectacle. Et un certain nombre de gens du spectacle vont se tourner vers le protestantisme pour cette simple raison que le protestantisme est plus libéral à leur endroit que ne l'est le catholicisme. Le pasteur Baer est aussi un organiste et compositeur de musique. C'est un savant, c'est un astronome, c'est un historien, enfin c'est un homme un petit peu universel qui va donc organiser un culte mensuel en français. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs, tout en recevant des gens du spectacle, à tonner contre les spectacles et à exhorter ces gens-là à abandonner leur profession. Et notamment, il considère comme tout à fait immoral, il fait des prédications nombreuses dans lesquelles il dénonce, n'est-ce pas, ceux qui offrent leurs filles en spectacle en en faisant des actrices de théâtre en particulier. Pasteur Baer a une autre idée, c'est de créer une infirmerie pour les malades. À cette époque-là, les hôpitaux sont tenus par des religieux et des religieuses. Et ce qui se passe très souvent, c'est que si un protestant a le malheur d'être hospitalisé dans un hôpital tenu par les catholiques, on profite de ce qu'il est un petit peu diminué par la maladie, et surtout s'il est à l'article de la mort, on fait des pressions terribles sur lui pour qu'il se convertisse. Alors le pasteur Baer se rend bien compte de ce problème et se rend compte que pour éviter ce genre de difficultés, il serait souhaitable que les protestants aient un hôpital à eux. Alors, il commence par créer une infirmerie dans les locaux de l'ambassade de Suède, qui a quelques lits, je crois 6 ou 7 lits au début, pas davantage, bien entendu. Ou 3 lits au départ, 3 lits avec des médecins. Puis ensuite, il va agrandir cette petite infirmerie à 14 lits. Et puis ensuite, il va réussir, par un miracle extraordinaire, à créer un véritable hôpital en dehors de l'enceinte de l'ambassade. Un hôpital luthérien, un hôpital protestant reconnu à Paris. Il faut dire que c'est l'époque, c'est la deuxième époque, c'est la fin du règne de Louis XV, où il y a déjà une plus grande tolérance qui joue. Et déjà en 1724, le roi avait accordé un nouveau cimetière pour les étrangers protestants à la porte Saint-Martin. L'hôpital, évidemment, ne tourne que grâce aux subsides du roi de Suède en particulier. Et lorsque le roi de Suède va avoir des difficultés financières, il aura un peu tendance à serrer les cordons de la bourse et l'hôpital va péricliter. Bon, dans le même temps, en 1744, l'ambassade du Danemark va prendre exemple sur ce qui se passe en Suède et elle aussi ouvrir une chapelle protestante qui va commencer à fonctionner. Bon, elle avait déjà été ouverte, il y avait eu une tentative dans ce sens-là en 1660, mais en 1703, la chapelle aurait été fermée pour avoir reçu des gens qui n'étaient pas des étrangers. En 1744, un nouvel ambassadeur arrive à Paris et il recrée la chapelle. C'est en fait la chapelle dans laquelle vont se rendre la majorité des Allemands qui sont en France. La chapelle de Suède est réservée aux Suédois essentiellement et aux Français qui se sont mariés avec des Suédoises ou des Suédois qui sont mariés avec des Françaises, ou ensuite des Français qui tout simplement se trouvent une vague ascendance suédoise fictive pour pouvoir assister aux prêches, n'est-ce pas? Mais la majorité des Allemands va, pour des raisons diverses, n'est-ce pas, fréquenter plutôt la chapelle allemande. C'est le pasteur Matthias Schreiber qui va en être le pasteur de 1746 à 1784. Et dès 1747, il va donner chaque mois la communion à tous ceux qui la voudront. Enfin, pas tous ceux qui la voudront, non, parce qu'au contraire, il a une vision très très stricte, très très rigide de la Sainte-Seine, comme on l'avait à cette époque-là d'ailleurs, la plupart des églises protestantes. Chez Calvin aussi, il fallait s'inscrire d'avance pour pouvoir donner la communion, pour recevoir la communion. On avait un registre de communion, et avant chaque communion, qui se pratiquait rarement dans les églises protestantes du XVIIe et XVIIIe siècle, parfois 2 fois par an seulement, mais ici donc à la chapelle de Suède, une fois tous les mois. C'était considérable. C'était très fréquent à cette époque-là, et beaucoup plus fréquent que ça se pratiquait dans la plupart des églises protestantes. Et Donc, il fallait être inscrit sur le registre et le pasteur examinait soigneusement la vie de chacun de ceux qui étaient inscrits sur le registre pour savoir s'il allait lui donner ou non, l'autoriser ou non à participer à la communion. Ça rigolait pas du tout à cette époque-là. Et si on avait le malheur de déroger, d'avoir une vie qui n'était pas conforme à la Bible, n'est-ce pas? Eh bien, on s'entendait dire le matin quand on venait au culte, eh bien, je suis désolé, mais vous n'aurez pas le droit d'avoir la communion aujourd'hui. Alors, évidemment, si on pratiquait ça aujourd'hui dans la plupart des églises réformées luthériennes, eh bien, ça changerait peut-être un petit peu aussi les mœurs. Et si on en croit un sondage récent, la plupart des protestants français, à part quelques évangéliques un peu attardés, eh bien, sont pour l'homosexualité, sont pour la liberté des mœurs, l'avortement et tout ce qu'on voudra. Bon, c'est certain qu'à cette époque-là, ça risque pas. Alors, le nombre des communions va continuellement augmenter dans cette chapelle du Danemark, notamment parmi les étudiants, les médecins, les artistes, on l'a vu tout à l'heure. Et le pasteur, donc, va interdire, le pasteur Schreiber va interdire, lui, carrément, le mariage avec des catholiques. Résultat, le nombre des mariages à la chapelle de Suède, évidemment, va baisser considérablement. Et ça va un peu nuire aux affaires, mais enfin, la plupart du temps, n'est-ce pas, ceux qui se convertissaient, ceux qui se mariaient, amenaient leur future épouse à la foi protestante. Bon, le pasteur Schreiber organise aussi des espèces de petits comités avant le culte, où chacun peut voir où il en est spirituellement, etc. Et la chapelle du Danemark, en fin de compte, accueille tous ceux qui se sentent un peu mal à l'aise chez les Suédois. C'est moins huppé que chez les Suédois, si vous voulez. Surtout quand on est déjà à l'époque où commence le mouvement de déchristianisation. Et la chapelle de Danemark prêche un évangile qui est beaucoup plus fidèle que l'évangile qui est prêché dans la chapelle de Suède. Alors, on retrouve aussi dans la chapelle de Suède des artisans qui sont venus des facteurs de voitures, de carrosses, etc., facteurs d'instruments, surtout de clavecin, piano, des harpes, des choses comme ça, les joailliers, dont le joaillier, n'est-ce pas, qui aura le redoutable privilège de fabriquer le fameux collier de Marie-Antoinette, vous savez, celui qui va donner naissance à la fameuse affaire dite du collier, qui sera une des causes de la Révolution française. On a des mauvaises langues ont prétendu qu'il était juif, parce que seul un juif, évidemment, ça faisait bien un juif ami de l'argent, n'est-ce pas, qui était à l'origine de ce fameux collier. En fin de compte, il n'était pas juif, il était protestant et membre de la chapelle du Danemark. Bon, il y a aussi les travailleurs du livre, il y a d'autres métiers spécialisés, n'est-ce pas, qui se retrouvent régulièrement dans cette chapelle du Danemark. Et ça va durer jusque la Révolution française, jusque 1789. 1784 est l'année où le pasteur Baer de l'église suédoise prend sa retraite et il est remplacé par un certain Karl Combe qui est âgé de 25 ans. Il sera pasteur pendant 22 ans jusqu'à la fermeture de la chapelle. Parmi les paroissiens les plus illustres de la chapelle de Suède, on trouve les deux Stahl. Monsieur et Madame de Stahl. Madame de Stahl sera une des égéries, n'est-ce pas, de ce siècle-là. C'est pas une des plus grandes gloires du protestantisme, loin s'en faut, parce que c'est une espèce de cocotte de bas étage qui va passer des bras d'un amant aux bras d'un autre amant. Mais elle est protestante, luthérienne, n'est-ce pas, et elle participe fidèlement et régulièrement au culte de la chapelle de Suède, à laquelle elle restera extrêmement attachée, d'ailleurs, n'est-ce pas. Bon. Au moment où éclate la Révolution, elle s'exile, bien entendu, elle a vu clair, comme un certain nombre de gens, n'est-ce pas, qui vont fuir aussi la France au moment où la Révolution française éclate. C'est l'année où meurt le pasteur Schreiber de la chapelle du Danemark, et le nouveau pasteur qui le remplace n'a pas du tout son envergure. Il parle mal l'allemand, d'ailleurs, n'est-ce pas? Il est très mondain, il est très influencé par la théologie moderniste de l'époque. Et les cinq dernières années de l'Ancien Régime pour la chapelle du Danemark seront être des années de déclin. Il va y avoir une émigration très importante. Les mariages mixtes qui avaient été interdits par le pasteur Schreiber vont fleurir. Et il va y avoir une perte de substance, jusqu'à ce qu'en 1789, l'année où éclate la Révolution française, le nouveau pasteur est muté. Bon, maintenant va éclater la tourmente révolutionnaire et les deux chapelles vont être prises dans la tourmente révolutionnaire elles aussi. Ça, si vous voulez, on verra la prochaine fois. Voilà, près de ça, juste une seconde. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus?